Bonjour et bienvenue sur le podcast Orema, le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, consultante en marketing digital et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs Orema. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à devenir des références dans leur domaine grâce au pouvoir des mots. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission culturelle. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. As-tu déjà entendu parler d'une experte comptable qui n'aime pas parler d'argent? C'est plutôt rare, non? Elle, c'est Vanessa Adandé et c'est mon invitée dans cet épisode de podcast. Alors Vanessa, c'est une femme, une maman qui a beaucoup de cordes à son arc. C'est une compatriote gabonaise et plus qu'une compatriote puisqu'on a de la famille en commun. C'est la grande sœur de ma petite sœur, c'est compliqué à expliquer. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu enregistrer cet épisode avec elle, surtout qu'on en parlait depuis très longtemps. Vanessa a aussi un franc-parler pour lequel je l'admire particulièrement, mais qui selon elle lui vaut d'être parfois toisée quand elle exprime ses unpopular opinions au sujet notamment du féminisme. Nous avons parlé de la place de la femme et de la mère dans le foyer, surtout du point de vue financier, et échanger autour de ce que cela coûte, financièrement donc, aux femmes de devenir maman. Sans plus tarder, je te laisse avec notre échange. Bonne écoute! Bonjour Vanessa!
Bonjour Lauriane!
Comment vas-tu?
Écoute, ça va. Ouais. On est déjà nés. Ça va.
C'est ça. En tout cas, je suis très contente de t'avoir enfin sur le podcast depuis le temps qu'on en parle.
Ouais.
Et je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Alors ça, c'est toujours un exercice qui est un peu compliqué parce que des fois, je me dis, mais je me présente en tant que quoi? Et c'est la beauté de la chose, en fait, de se dire qu'on est, on est tellement de choses en une seule. C'est vraiment sympa. Bref, donc je m'appelle Vanessa Adandé. Je suis gabonaise, expert comptable. Je n'aime pas parler d'argent. Je suis maman de trois magnifiques... petits êtres humains, de 10, 5 et de 10 ans, 5 ans et 9 mois. Et donc, j'ai un cabinet de conseil en gestion financière qui s'appelle Ellipsis et je préside aussi une fondation qui s'appelle la Fondation Louise et qui lutte contre la drépanocytose. Entre autres choses, c'est moi.
Il manque encore... Il y a une autre corde à laquelle je pense que tu n'as pas cité.
Ah ouais? Ah ouais, le cœur des femmes. Je suis aussi... Je te jure. Alors, je suis aussi chroniqueuse, oui, sur une émission Canal Plus Afrique qui s'appelle Le cœur des femmes, qui est, mais je pense d'ailleurs, le premier talk show africain féminin... en tout cas, africain francophone. Donc, ouais, c'est moi aussi.
Ouais, c'est toi aussi. Ça fait beaucoup de choses. Et c'est super. C'est aussi pour ça qu'on aime te suivre et consommer les contenus que tu proposes qui sont toujours
en vie. Yeah.
Donc, tu viens du Gabon, tu es gabonaise. Dis-moi, c'était comment quand tu étais enfant?
Alors. Ce que je peux te dire, c'est que le Gabon dont je me souviens en tant qu'enfant est en fait très différent du Gabon dans lequel je vis aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la faute du pays ou si c'est moi qui n'avais pas, qui le regardait d'un œil d'enfant. Je pense notamment à la position des femmes. Moi, j'ai grandi en future femme libre, en fait. J'avais vraiment l'impression que je vivais dans un pays dans lequel il n'y avait absolument aucune limite, que je pouvais faire ce que je voulais, que je pouvais vivre comme je voulais. Je n'ai pas du tout grandi, je me suis pas du tout développée avec l'idée qu'il y avait des restrictions qui s'appliquaient à moi du fait que j'étais une femme. Donc peut-être qu'il y en avait et que je les avais juste complètement intégrées, mais en fait, non. Et j'ai découvert certaines restrictions en grandissant, en revenant vivre au Gabon. Je me suis rendu compte qu'en fait, ma condition de femme, les limites sur ma condition de femme étaient plus subtiles qu'ailleurs. Donc, on a la chance de pas vivre dans un pays dans lequel on te dit « t'es une femme, ne va pas à l'école, parce que t'es une femme, tu fais pas telle ou telle chose ». Par contre, il y a des choses quand même beaucoup plus subtiles que j'ai découvertes et c'est pour ça que j'en parle beaucoup en fait. J'en parle beaucoup parce que je pense qu'on n'a pas, on n'est pas toujours consciente de ces limites, de ces restrictions. Parfois parce qu'on les accepte, parce que c'est juste trop fatigant de se battre contre tout ça tous les jours. Mais aussi parce que souvent on ne sait pas jusqu'à ce qu'on y soit confronté en fait. Vraiment, donc moi je continue de les découvrir et maintenant je peux dire que j'ai décidé de ce que je voulais accepter ou pas et je gère ça comme ça.
Mmh. Oui, finalement il y a beaucoup de sous-entendus en fait, de non-dits, de statu quo, de dogmes qui sont un peu latents comme ça. Et c'est quand tu veux faire quelque chose et que tu te heurtes finalement à un mur, tu te
rends à une résistance. Voilà. Ouais. C'est exactement ça où tu te dis ah je savais pas que je pouvais pas faire ça, d'accord. Ou parfois tu le fais et la réponse est peut être d'une grande violence, pas physique hein, mais la réponse de la société est parfois d'une grande violence.
Mmh. Alors, c'est marrant parce que tu disais, tu es experte comptable et tu n'aimes pas parler d'argent. Comment ça se fait, ça?
Tu sais, c'est, on pense toujours que les experts comptables étaient les meilleurs en maths à l'école, parlent de chiffres toute la journée. J'ai un client qui m'a dit, quand j'ai commencé le cœur des femmes, j'ai un client qui m'a dit, avoue, hein, tu voulais pas être expert comptable en fait, tu voulais être dans la com. Non, pas du tout. J'ai toujours voulu être expert comptable, d'autant que je me souvienne. Et non, je n'aime pas parler d'argent, mais ça, c'est pas forcément lié au fait que je sois expert comptable. C'est lié, je pense, à mon éducation. Dans le milieu francophone, c'est pas chic de parler d'argent. Et ça, c'est pas qu'en Afrique, c'est pas que pour les femmes. C'est encore pire pour les femmes en Afrique. On n'aime pas parler d'argent, c'est pas chic, c'est pas nous qui parlons de ça. Et puis, c'est pas agréable. C'est impoli de poser des questions sur l'argent, c'est pas très poli de réclamer son argent non plus. En tant que femme dans le travail, de négocier, de demander plus d'argent, en tant que femme dans les affaires, de demander à être payée à sa juste valeur, c'est pas à la mode. Voilà. Donc, je considère que mon rôle aussi, c'est de vaincre, c'est de dépasser le fait que je n'aime pas parler d'argent. Et il y a rien de mieux que de dépasser ça ensemble, parce que le faire toute seule c'est un peu difficile, je me suis rendu compte. Et donc c'était vraiment pour moi la raison de ma présence sur l'émission Le Cœur des Femmes, c'était de dire en tant que femme on peut parler de tout en fait, on peut parler de nos conjoints ou de l'absence de conjoints, on peut parler d'enfants ou d'absence d'enfants dans nos vies, on peut parler de nos vies sociales, mais on peut aussi parler de nos carrières, on peut aussi parler de nos situations financières et de leur amélioration, parce que c'est très, très, très important.
Mmh. Alors, il y a une conversation qu'on avait commencé à avoir, toi et moi, mais on l'a pas terminée, c'était un petit peu autour de la maternité et de l'impact que ça peut avoir sur nos carrières. Donc, tu es récemment devenue maman pour la troisième fois. Dis-moi un
C'est ça.
peu, voilà. Bah déjà pour les plus grands, comment ça s'est passé par rapport à ta carrière et aussi quel est le switch en fait qui s'est fait où tu as réalisé encore plus avec le troisième bébé que ça avait un impact sur ta carrière finalement.
Alors déjà, je voudrais qu'on change le postulat. C'est pas ça peut avoir un impact, c'est que ça en a forcément. Maintenant, dépendamment de qui on est, la position dans laquelle on est, le soutien, le type de carrière qu'on a, on le gère plus ou moins bien. Je me souviens d'une amie qui m'a dit, je l'ai payé mon enfant. Et en fait, j'avais trouvé ça brutal à l'époque, j'avais trouvé ça violent, mais c'est très très vrai et on les paye tous. Entre les femmes qui ont des petits boulots ou qui travaillent dans l'informel et qui n'ont pas de congé maternité parce qu'elles peuvent pas se le permettre, il faut quand même rappeler qu'au Gabon, dans le meilleur des cas, quand vous êtes salarié dans le formel, et que donc vous êtes couverte par les prestations sociales et que vous pouvez partir en congé maternité, vous n'êtes pas payé pendant votre congé. Vous êtes payé au retour de votre congé maternité. Certaines femmes peuvent pas se le permettre, donc elles ne prennent pas la totalité de leur congé maternité avec tout l'impact que ça peut avoir sur la santé de la jeune mère et sur la santé du bébé. Moi, j'ai toujours d'ailleurs un client qui emploie principalement des femmes. Elles font le ménage et elles rentrent 2 semaines après leur accouchement parce qu'elles peuvent juste pas se permettre. C'est une autre bouche à nourrir. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on reste à la maison pendant 3 mois sans revenu, avec des charges additionnelles associées à nos conditions, c'est vraiment pas possible. Donc ce sont les impacts directs. Après, il y a on peut en parler là et on peut continuer à en parler jusqu'à demain, hein, la stigmatisation des mamans au travail. Je me souviens, j'étais encore à un forum cette année où un homme s'est levé pour dire « Oui, non, mais lui, il aime beaucoup travailler avec les femmes, mais vous comprenez, elle tombe enceinte. » Non, mais est-ce qu'on peut s'asseoir et se souvenir que ces bébés, on les fait pour la société, en fait ? Ce sont les enfants qui vont travailler dans le futur, financer nos retraites. Les enfants, on les fait pour nous, on les fait pour leurs pères, on les fait pour nos familles, on les fait pour la société, tout le monde en profite. Pourquoi le coût, il devrait seulement être sur nous? Donc oui, il y a des personnes, moi beaucoup de quand j'ai cette conversation, c'est avec des papas notamment. Je suis pas très populaire parce que forcément, les mecs, ils se disent, tu sais, les mecs, faut jamais leur dire qu'ils en font pas assez, hein, ils en font toujours assez. Et il y en a qui en font beaucoup. Je leur dis, c'est un fait, c'est pas suffisant. Moi, à chaque fois que je suis tombée enceinte, j'ai perdu des revenus. J'ai reculé dans ma carrière. J'ai reculé dans mes ambitions. J'ai dû mettre des ambitions en pause. Du simple fait d'être enceinte, d'avoir accouché et d'être en postpartum. Parce que ma situation physique ne me permettait pas de répondre à certaines sollicitations. C'est un fait. Il n'y a pas à y déroger, c'est un fait. De la même façon qu'on nous dit, bon, ben, on a un corps qui est là pour procréer, ok. Mais pourquoi on devrait être seul à payer le prix de ça, quoi? Donc, pendant que moi, je fais ça, ben, le père de l'enfant en question, ben, lui, vit sa vie, en fait. Il travaille, il part en mission, il gagne de l'argent, et cet argent-là, ben, moi, j'en profite pas. C'est son argent. Et moi, la perte, ou le manque à gagner, qui est lié à ma condition de femme enceinte, ou de nouvelle maman, ben, je le prends tout court, quoi. Donc oui, il y a des situations où il y a des pays où la société, commence à aider. Bon, c'est le cas du congé maternité payé, mais c'est toujours pas suffisant.
Oui, c'est pas suffisant et c'est pas généralisé, comme tu disais, c'est pas applicable.
Mais tout ça, c'est parce qu'on n'en parle pas. Hein. Moi, je te garantis que si c'était les hommes qui faisaient des bébés, parce que eux, ils parlent de ce genre de choses. Quand il y a quelque chose qui affecte leur portefeuille, on en entend parler jusqu'à demain. Donc, clairement, je pense que on est aussi responsable. On veut parler de moi. J'adore mes enfants et ce n'est pas la question. Et je leur dis tous les jours qu'ils me coûtent cher, qu'ils m'ont coûté et qu'ils continuent de me coûter. C'est un fait et ça n'a aucun impact sur l'amour que j'ai pour eux. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas en parler. Et on nous enferme dans cette situation. Oui, mais tu comprends, tu as la chance d'être mère. Mais c'est même pas une chance, c'est une grâce. Elle coûte quand même.
Mmh. Et c'est j'ai eu on a eu dimanche avec mes amis de l'association Kera, on parlait de ça aussi et on parlait après, alors c'est un peu après l'accouchement, ça va être après les dépenses qui concernent les enfants et tout. En fait, on se dit les dépenses que font souvent, alors je parle des couples cis hétéro, quand il y a une maman et un papa, souvent les dépenses, par exemple sur l'habillement des enfants,
c'est pour ta pomme,
voilà, les petits goûters, les
ce sont tes enfants,
voilà,
c'est pour ta pomme,
la maman, et le papa il va plus faire des dépenses qui éventuellement vont ramener, faire un retour un peu, comme par exemple acheter, payer plus la voiture ou bien ce genre de choses qui ont vraiment un peu un intérêt, en fait, financier, quoi.
Qui ont une valeur, voilà, et ça reste. Ce sont des investissements et ça reste. Ouais. Donc, on vous dira, eux, ils payent plus. Déjà, c'est pas toujours vrai. Parce que 1 plus 1, ça peut commencer à faire beaucoup. Donc, les vêtements, les activités extrascolaires, le petit truc à gauche, à droite, la glace, la petite activité le mercredi après-midi ou le samedi, ça commence à coûter. Ça, c'est de 1. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que quand on fonctionne comme ça, la personne, et ça c'est humain, c'est pas dû aux hommes en fait, la personne en face, elle ne mesure pas la valeur de ce que toi tu apportes en tant que mère. Il se réveille, il voit ses enfants habillés, c'est tout. En fait, comme ça sort pas de sa poche, il mesure pas. Donc ça c'est un truc, moi je conseille toujours de faire un budget, d'évaluer réellement ce que ça coûte et de revenir dessus souvent, parce que chacun doit avoir conscience de ce que l'autre apporte. C'est nécessaire. C'est nécessaire dans toute relation humaine. C'est pas juste dans les couples. J'avais cette réflexion parce que la semaine dernière, j'étais chez des amis homosexuels qui ont des enfants. Et j'étais très curieuse, j'étais en grande observation de comment les choses se passent dans un couple où il n'y a pas d'attente lié au genre. Ce n'est pas toi, tu débarrasses parce que tu es une femme. Toi, tu fais la cuisine parce que tu es une femme. Aujourd'hui, je suis dans un couple que je trouve très équilibré, où il y a moins d'attentes, mais il y en a quand même. Parce qu'en fait, c'est inscrit dans nos têtes et les attentes ne viennent pas toujours de l'homme. Même nous, en tant que femmes, tu te réveilles, tu fais pas ton lit, tu dis, tu le vois faire le lit, tu dis quand même, purée, si ma mère me voyait. C'est des choses qu'on combat, mais elles sont là, en fait. Donc, c'était marrant de voir, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'équilibre, c'était beaucoup plus fluide, et finalement, chacun faisait ce dans quoi il était bon, ou ce qu'il savait mieux faire. Et du coup, j'ai trouvé, en tout cas, dans une scène de la vie quotidienne de base que je vois chez moi et chez l'ensemble des personnes que je fréquente, j'ai trouvé qu'il y avait moins de tension. Mais ça demande beaucoup de travail de mettre ça en place dans un couple hétérosexuel aujourd'hui. Ça demande beaucoup de travail sur vous. Ça demande beaucoup de travail sur votre environnement, parce que c'est pas que vous, c'est aussi le regard de la société sur vous. On sait très bien qu'il y a les comportements quand vous êtes tous les deux dans la cuisine, et puis il y a les comportements quand il y a la famille ou les amis à la maison, donc c'est aussi un peu différent. Donc d'un point de vue financier, c'est très important que chacun soit conscient de ce que l'autre apporte, pour qu'on puisse mettre de la valeur sur les choses et que chacun puisse se sentir valorisé dans ce qu'il apporte. Mmh. Et c'est pour ça que pour moi, on parle là de, par exemple, acheter des vêtements ou acheter la voiture, etc. Mais il y a vraiment une question qui est très importante, c'est le cas de tout ce qui n'est pas monétaire, de tout ce qu'apporte le parent, parce que de nos jours, les hommes s'améliorent aussi dans cette dimension, mais de tout ce qu'apporte le parent qui va s'occuper des enfants au quotidien, porter la charge mentale de l'enfant. Moi, mon aîné a 10 ans, et en fait, j'ai réalisé que mes nuits ne sont jamais aussi bonnes que quand je n'ai aucun enfant dans la maison, ou que je suis quelque part où en fait il n'y a aucun enfant, parce que tant qu'ils sont là, je suis en mode, est-ce que c'est eux que je viens d'entendre ? Est-ce qu'ils ont bien dormi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille ? Est-ce qu'il y a ceci ? Est-ce qu'il y a cela ? je suis forcément, ça a forcément un impact sur la qualité de mon sommeil, donc sur la qualité de la journée qui va suivre, sur ma concentration, etc. Donc en termes d'énergie, je dois mettre beaucoup plus d'énergie pour arriver à réaliser quelque chose en dehors de du fait d'être leur mère, ben, que leur père. Donc ça aussi, ça devrait être valorisé.
C'est vrai, et du coup, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de... c'est pas chiffrable, quoi. C'est quelque chose d'assez, d'assez abstrait, quelque chose de, d'assez subjectif aussi, finalement.
Là aussi, je suis pas d'accord, Lauriane. Quand tu veux acheter un terrain, c'est la loi du marché. Le terrain, qu'est-ce qui te dit qu'il vaut le prix qu'on a fixé? Quelqu'un a décidé que ça valait ça, et toi, si ça te convient, t'as décidé que tu l'achetais. Moi, je suis entrepreneur aujourd'hui en profession libérale. Je décide de ce que vaut mon temps, parce que je ne vends que mon temps. Donc, je me plais à rappeler à qui veut l'entendre, mes amis, ma famille, que quand je me lève, quand j'ai un ami qui vient ou une amie qui vient au Gabon, que je me lève pour aller chercher à l'aéroport, passer du temps avec lui ou passer du temps avec elle, en blaguant, je rappelle que bon, ben moi, mon taux journalier, c'est temps, en fait. Donc, je viens de dépenser ça dans le temps que je considère, que je veux passer avec toi. C'est important. Et je pense que tout un chacun devrait être conscient de ce qu'est son taux journalier. Alors, ça fait grincer des dents parce qu'on dit on ramène tout à l'argent, etc. Mais en fait, l'argent, c'est un baromètre. Si, arrêtons de faire comme si c'était pas important. Si c'était pas important, on travaillerait pas pour en gagner. C'est important. Et quand tu vois tout ce qui se passe dans la vie, les femmes sont toujours lésées. Pas toujours, j'exagère. Sont beaucoup lésés dans les cas de séparation, de décès de conjoint, etc. Parce qu'on est là comme si on vivait pour aimer et boire de l'eau. Je suis désolée, non. Gagner de l'argent, ça, en gagnant de l'argent, on fixe notre position dans la société. C'est pas nous qui avons décidé que la société devait être comme ça. On est arrivé, on est déjà né, on est dedans.
On peut plus tomber, on a des années.
Et c'est ça les règles. Et donc, il faut qu'on devienne meilleur à comprendre les règles et à les adapter à ce qu'on veut, à ce dont on a besoin. Et moi, je suis désolée tous les jours. Donc, je fais beaucoup d'efforts. Je dis je suis désolée, mais en fait, non. Je fais beaucoup d'efforts aujourd'hui pour être consciente moi-même de ce que je pose sur la table, que ce soit d'un point de vue purement monétaire, parce que ma contribution, elle est certaine, et pendant des années, je l'ai diminuée. Je l'ai diminuée parce que je ne voulais pas, dans la société dans laquelle on vit, j'étais mal à l'aise de montrer tout ce que j'apportais. J'étais mal à l'aise que ce soit un sujet, et il y avait tellement de résistance par rapport au fait que j'apportais tout ça, que soit d'un point de vue monétaire ou extra-monétaire, que le fait de le diminuer, je trouvais que ça mettait tout le monde à l'aise et que du coup, j'étais mieux dans cet environnement-là. Et je pense qu'il y a vraiment cette nécessité pour transcender tous ces problèmes-là, de devenir à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. C'est difficile de parler d'argent. C'est difficile de parler d'argent dans le couple, dans la famille. C'est difficile de discuter de notre... contribution à chacun, mais c'est nécessaire. Après, ça ne veut pas dire que tout va toujours être 50-50, équilibré, etc., machin. Il y a des cycles de vie, mais c'est important qu'à chaque étape, on sache où on en est. On sache que tu sais quoi, là, je suis enceinte, ou bien on veut avoir un bébé. Ça va avoir ça et ça comme conséquence sur ma carrière, sur nous. Je sais qu'on parle beaucoup, par exemple, de préparer les couples au fait que les enfants, ça change la vie, ça change vos interactions, il va falloir plus travailler pour avoir du temps ensemble et tout ça. Ben, ça change aussi les finances, ça change aussi comment vous organisez financièrement, il faut en tenir compte. J'ai lu un article la dernière fois sur une Américaine qui a dit à son mari que s'il voulait, ils gagnaient tous les deux très bien leur vie, elle lui a dit « si tu veux qu'on ait un enfant, ben, il faut que tu me rémunères pour ce que je perds. » Et alors, le mec, il était super choqué, tout ça, machin, scandale et tout. Mais en fait, très froidement, ben, ça faisait totalement du sens. Mais bon, c'est pas sexy d'en parler. On va traiter les femmes d'arrivistes, de tout, de machin. Moi, on n'est pas arriviste tant qu'on accepte de perdre pour le groupe, en fait. Et moi, je suis désolée, j'ai vécu chacune de mes maternités comme si j'allais mourir, en fait. Je me suis vraiment sentie à un niveau de vulnérabilité. Il y a des femmes qui aiment être enceintes, il y a des femmes dont les accouchements se passent super bien. Moi, heureusement, tout s'est bien fini, mais c'était toujours des moments où j'avais l'impression que j'allais mourir. Mmh. Et je trouve que c'est déjà assez cher payé. Mmh. Et que je devrais pas payer plus.
Là, il y a deux choses dont t'as parlé qui font tilt, tu vois. C'est quand tu disais, on n'a pas, tant qu'on se sacrifie un peu pour le bien-être du groupe, il y a pas de souci. Ça fait penser à l'image de la mère sacrificielle. En fait, le sacrifice, on l'associe beaucoup à la mère. Et l'autre chose, c'est quand tu parlais aussi de, ben, finalement, quand on parlait de ce qu'on perd quand on fait des enfants, ça se ressent pas trop tant qu'on est toujours dans notre couple, dans notre quotidien, etc. Mais ça se ressent vraiment en cas de divorce, de séparation, de divorce, et que il est temps de se dire, bah voilà. Par exemple, là, bah pendant tout le temps où j'ai été en arrêt maladie par rapport à la grossesse, où tout le temps j'ai dû arrêter, etc. J'ai pas été payée, j'ai pas participé à hauteur habituelle aux frais de la maison. Donc, par exemple, le crédit immobilier, c'est toi qui l'as payé pendant tant de temps, etc. Et on arrive au divorce, finalement. Moi, je me suis appauvrie et toi, tu t'es enrichie. Et aujourd'hui, la maison, bah, tu l'as plus payée que moi, et je sors du mariage avec quoi, finalement, si j'ai pas fait, que j'ai fait ou pas de contrat de mariage, d'ailleurs, finalement. Je
sais pas. C'est ouais. Ça. Mais je pense que c'est très vrai ce que tu dis, et c'est tout aussi vrai. Moi, je pense que ce postulat-là, il tient aussi pendant que vous êtes toujours en couple. Mmh. Parce que on nous dit qu'il faut pas réclamer, mais il y a aussi la question de la valeur que ton conjoint met sur ta tête, en fait. Aucune d'entre nous ne veut se balader dans une maison où on a l'impression qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'apporte rien. Donc, moi, la plupart des hommes que je connais ne valorisent que l'argent. Mmh. Donc, eux, ils apportent parce qu'ils apportent l'argent dans la plupart des couples. Donc toi, on va considérer que si tu n'apportes pas de l'argent, si tu n'en apportes pas suffisamment, on va considérer que tu n'apportes rien ou que tu apportes très peu. Et ça, tu l'as mentionné tout à l'heure quand on parlait des enfants, on dit ok, ben lui il va payer l'école privée, il va payer la voiture, etc., le logement, et puis toi tu vas payer toutes les petites choses. On parle de petites choses parce qu'on ne sait pas combien ça coûte de d'habiller un enfant, de s'asseoir là, de se dire « Ok, la dernière fois, il m'a fait un scandale parce qu'il voulait pas de t-shirt à boutons, dit mon fils. Donc maintenant, il faut que je lui achète. » Non, ne fût-ce que le temps de s'asseoir, de se dire « Là, c'est les soldes, il faut que j'y aille, truc. » ne fût-ce que ça. De l'argent que tu mets dedans, etc. Et puis, souvent, ben, il gagne plus d'argent aussi parce que toi, tu étais coincée pour faire des bébés, quoi. Pendant que toi, tu étais enceinte, accouchante, allaitante, ben lui, il a eu des opportunités qu'il a réussi à saisir. Donc, même à situation égale quand vous commencez, ben tu prends un coup, en fait, qui te ralentit pendant que lui, il avance. Et ça, donc oui, c'est encore pire quand vous vous séparez au moment où tu n'as pas encore réussi à avoir un retour sur investissement. Mais même dans le couple, moi je connais énormément de couples où en gros le mec, même quand il le dit pas, il regarde sa femme et puis dit ouais bon, qu'est-ce que tu apportes en fait. Je me souviens quand on a parlé de cette histoire de chef de famille au Gabon qui a fait tant péter, etc. Ce que j'ai pas compris d'ailleurs, parce que
dans le code civil, c'est ça.
C'est ça. Donc avec le projet Gabon Égalité, il y a une modification dans le code civil parce que le mari était considéré comme le chef de famille, ce qui avait toute une suite d'impacts juridiques. Donc, c'était pas que c'est lui qui porte le pantalon, tout ça. Enfin, moi, j'ai toujours énormément relativisé cette histoire. Il y avait des impacts juridiques clairs qui entravaient la vie des femmes. Donc, la plupart, beaucoup d'hommes n'étaient même pas au courant de l'étendue de leurs droits. Donc, heureusement. Mais c'était quand même pas très chic, quoi. On était quand même dans des situations où pour sortir de territoire, faut que ton mari te fasse un courrier pour aller chercher un passeport. T'as besoin de son autorisation pour X, Y, Z. Quand en fait, dans beaucoup de foyers, les femmes contribuent plus que les hommes. Donc on est là en train de se rouler par terre pour des choses où finalement on avait la contribution mais pas les droits qui allaient avec. Et j'ai entendu beaucoup d'hommes dire ouais, mais en attendant, si c'est ça, donc faut aussi m'aider à payer le loyer, tout ça. Bon, moi c'est des trucs qui me font rire parce que bon, moi j'ai toujours payé ma part, tout ça, machin. Donc bon, je me sentais jamais concernée. Mais même dans les foyers où toi tu payes le loyer et pas la femme. Mais elle apporte autre chose, en fait. Si pour tout ce qu'elle faisait, vous deviez recruter quelqu'un, ben ça vous coûterait un paquet d'argent. Et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je trouve que beaucoup d'hommes autour de moi, ben c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Après, bon, ils font pas non plus plus d'efforts pour s'en rendre compte, et c'est humain, en réalité. Dès lors où, humainement, on te demande d'en faire plus, tu te demandes, est-ce que je suis vraiment obligée, quoi. Voilà. Et tout part de là. Mais la question de la contribution au foyer, c'est vraiment un sujet que je pense qu'on devrait étudier, dont on devrait discuter plus sérieusement dans les couples, avant de se mettre en couple, pendant qu'on est en couple, etc. Parce qu'en fait, on est une génération sacrifiée. Avant, les codes étaient plus clairs. Le mariage était d'abord une institution sociale et économique. Donc l'amour venait derrière. L'amour venait derrière. Mais aujourd'hui, on se marie d'abord parce qu'on s'aime. Et donc, ça met le désordre partout. Parce que, ok, on s'aime, mais qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que j'apporte? Les lignes sont de plus en plus floues. Et donc, ça demande de s'asseoir et de décider. Ça nous donne une liberté qu'on n'était pas forcément prêt à avoir, parce que ça nous demande de nous asseoir et de fixer nos propres règles, et c'est pas facile de fixer ses propres règles. C'est tellement plus facile de suivre des règles qui vont avec. Et moi, ça me fait rire quand on me dit « Ouais, mais toi, t'es toujours dans la revendication, t'es une rebelle. » En fait, pas du tout. J'ai toujours beaucoup aimé suivre les règles, c'est pour ça que je suis devenue expert comptable. Mais en fait, les règles, elles m'empêchaient de vivre. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment aucun mal à suivre des règles qui me mettent bien. Mais en fait, les règles, elles m'empêchaient de vivre. Et donc, à un moment, tu t'assis et tu te dis, mais ça me convient pas du tout, cette histoire. Et comment je peux gérer ça, quoi. Et je pense que c'est de là d'où vient la difficulté. C'est pas forcément de la mauvaise volonté de X ou Y, mais on est vraiment dans un monde qui est en changement, et on nous a pas préparé pour ça, et c'est pas toujours facile de s'asseoir en tant que couple et de se dire, mais en fait, on a un couple, on est dans une situation qui est très difficile, qui est très différente de celle de nos parents. On vit dans un monde différent, et il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde le monde dans lequel on vit, qu'on regarde ce qu'on veut, ce dont on a besoin, ce qu'on peut faire, et qu'on essaye de trouver un consensus.
Mmh. Mais comme tu disais, quand tu es dans une situation et on te dit tu dois faire plus, tu te demandes est-ce que tu es vraiment obligé. C'est un peu la même logique quand tu as des privilèges finalement et on te demande de renoncer à ces privilèges. Exactement. Quel est ton intérêt à toi de renoncer à tes privilèges? Tu n'en as pas. Alors les hommes, dans cette espèce de comment dire, de cliché de l'homme qui pourvoit et qui ramène l'argent, et la femme qui est un peu cantonnée aux tâches domestiques, vont mettre vraiment entre griffes, parce que aujourd'hui, surtout ici en France, les deux travaillent. C'est comme ce que tu disais, moi je me rappelle ma grand-mère, donc à Libreville. C'est mon grand-père, il allait au travail. Et du coup, il faisait de la compta aussi. Et bah, ma grand-mère, la maison avec les enfants. Et elle faisait, entre guillemets, comme des petits business. Et c'est pas la même chose que les deux parents qui sont salariés ou bien qui travaillent. Et après, quand on rentre à la maison, c'est encore la femme qui fait un deuxième travail en plus de celui qu'elle a déjà fait à l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'il y a un décalage finalement de société, un glissement comme ça de modèle de vie. Et que comment on fait pour s'ajuster aux réalités, quoi. On peut pas.
Mais ça demande beaucoup d'efforts. Et tu sais, cette histoire de privilège, ça aussi, le point de vue que je veux exprimer n'est pas très, ne m'apporte pas beaucoup d'invitations sociales. Les gens n'aiment pas trop entendre ça, mais je compare toujours le privilège de l'homme, de façon générale, au privilège lié à la race. Et c'est impressionnant quand tu parles à un homme noir et que tu vas entendre ses arguments dans le cadre de situations raciales pour lesquelles il n'est pas la personne qui porte le privilège. Et tu vas l'entendre débattre de situations sur le genre où là, il est la personne qui porte le privilège. Et en fait, il parle comme il change totalement de casquette et il va avoir le même discours que l'homme blanc a eu avec lui, en fait. Et c'est quand même, c'est vraiment une leçon sur la nature humaine. Et du coup, je me dis tous les jours, donc bien sûr, je parle, hein, je parle aux hommes autour de moi, mais je pense qu'on a vraiment un gros travail à faire en termes d'éducation de nos enfants. On s'est focalisé pendant des années à fabriquer, entre guillemets, des filles indépendantes. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout préparé les garçons à gérer ces filles indépendantes-là. Moi, je vois ma fille, si elle arrive, mes filles, enfin, la dernière, je ne vois pas encore ce que ça va donner, mais la première, elle n'est clairement pas là pour se laisser faire. Donc, si elle arrive dans le monde que nous, on a aujourd'hui, et qui n'a pas l'air de s'arranger pour eux, hein, mais ça va être une véritable catastrophe sociale. Et moi, j'aime bien quand les hommes te disent « Ouais, mais si vous continuez à être comme ça, vous n'aurez plus de mari. Hein. » Mais si vous continuez à être comme ça, vous n'aurez plus de femme. C'est un problème réel. C'est-à-dire, à un moment, il va falloir vous remettre en cause sérieusement en tant que conjoint, mais aussi en tant que frère, en tant que père. Moi, je me dis, c'est le choix de la personne qui va partager ma vie a aussi été défini par ça. Je ne veux pas que mes enfants voient une situation non paritaire dans la vie au quotidien parce que ça va guider leur choix dans le futur. C'est très important pour moi que mes enfants, notamment mon fils, voit un homme qui rentre à la cuisine, voit un homme qui débarrasse la table, voit un homme qui fait le lit le matin, voit un homme qui s'occupe des enfants, dans la limite de ce qu'il peut faire. Moi, je vois, j'ai un frère qui cuisine mieux que moi. Donc, je vais pas m'imposer que, ouais, parce que je suis une femme, ceci. Mais l'homme qui cuisine pas aussi, je vais pas dire, ah, parce qu'il faut être paritaire, faut absolument qu'il rentre à la cuisine. C'est pas ça mon débat. Je pense qu'il faut vraiment mettre la balle à terre et se dire, si on n'était pas dans une situation homme-femme, qu'est-ce qu'on ferait? De la même façon que quand on est en vacances avec des amis, on se dit, tu sais quoi, toi, t'aimes faire le ménage, donc toi, tu sais mieux faire le ménage, donc tu fais ça. Toi, tu sais, t'es plus à l'aise à la cuisine, donc tu fais ça. Toi, t'es plus à l'aise dans la logistique, donc c'est toi qui vas gérer les déplacements et tout ça. On devrait quand même plus être comme ça. Donc, c'est très important pour moi de dégenrer les responsabilités dans la maison. Et c'est au même niveau que je mets la nécessité de dégenrer les métiers. Donc, je pousse mes enfants à se questionner sur ce qu'ils ont envie de faire, peu importe leur genre. Donc, de la même façon qu'on essaye de pousser les femmes dans tout ce qui va être activité, tout ce qui va être métier lié à la technologie ou aux techniques de façon générale, je pousse aussi mon fils à remettre en question des métiers qui sont principalement tenus par des femmes. Je pense au métier de sage-femme, par exemple, où tous les métiers où il faut s'occuper de quelqu'un qu'on a toujours poussé sur les femmes. Et je trouve que, par exemple, mon fils a vraiment ce truc-là où il aime être auprès des gens et tout ça. Et c'est très important que dans sa tête, ce soit acceptable pour lui en tant qu'homme. Je me souviens un jour, une de ses grand-mères me demande qu'est-ce que je devrais lui offrir à Noël. Je lui dis, tu sais, il aime bien jouer avec les poupées de sa sœur. Alors, elle crie au scandale, mais un homme qui a une poupée, tu comprends, après, ça fait des homosexuels. J'ai dit, écoute, moi, je lis pas ça du tout à sa sexualité. Par contre, ça fait des très bons papas. Parce que quand il s'occupe de sa poupée, il a conscience qu'il s'occupe d'un enfant. Et donc, ça développe, je vois se développer chez lui des compétences liées à ça. Et je vois aussi très clairement son côté charmeur. Dès qu'il voit des cils battre chez une femme, donc je n'ai aucune inquiétude par rapport à sa sexualité hétérosexuelle. Donc, s'il te plaît, achète-lui une poupée. Et ça a duré un temps. Il aimait bien les poupées, il la portait, machin. Bon, maintenant, il est passé à autre chose. De la même façon que ma fille de 9 mois est passionnée par les camions de son frère et les poupées, mais elle les balance de l'autre côté de la pièce et ça ne l'intéresse absolument pas. Pour avoir des adultes qui s'assument, qui sont en bonne santé mentale et qui sont aptes à évoluer dans le monde qu'on voit aujourd'hui, ben il faut déjà qu'on leur apprenne à gérer ça quand ils sont petits, gérer les envies qu'ils ont, développer l'ensemble de leurs compétences, notamment émotionnelles. C'est très important. Et pour ça, moi, je trouve que un couple qui a une organisation paritaire dans une maison a un très, 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 très belle, une très belle influence sur les enfants.
Ben super, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de développer. Et je trouve que c'est une belle conclusion. Sauf si tu as un point particulier que tu aimerais aborder avant qu'on se sépare.
Non, je pense qu'on a parlé de ce qui était important. Je veux vraiment dire que si... Ce que je veux qu'on retienne, parce que quand on parle, donc je suis féministe, engagée, assumée, etc. Et quand on parle de féminisme, je pense qu'on nous a tellement, avec le patriarcat, on nous a tellement imposé des choses que quand on parle de féminisme, on a l'impression qu'on nous impose d'autres choses. Ou qu'on nous impose l'inverse. Moi, je vis le féminisme en disant, c'est vraiment le fait de se dire qu'une plus grande égalité, c'est quelque chose qui est censé être au bénéfice de tout le monde. Donc, on n'en a peut-être pas conscience aujourd'hui, mais certains des privilèges dont profitent les hommes aujourd'hui ne sont pas forcément des privilèges et ne sont pas forcément à leur avantage dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je veux vraiment insister sur cette remise en question. Ça ne veut pas dire que le modèle traditionnel de vie ou de couple est mort. Pas du tout. Moi, je me souviens toujours d'un de mes oncles. Sa femme ne travaillait pas, c'est la seule femme d'ailleurs dans mon entourage qui ne travaillait pas, mais elle percevait un salaire tous les mois. Parce que, en fait, le modèle traditionnel, c'est aussi ça. Ça ne veut pas dire, excuse-moi l'expression, laisse ta femme crever la bouche ouverte. Ça veut dire que pendant que toi tu travailles dehors, elle travaille à la maison. Et donc ce travail mérite un salaire. Et toi, l'argent que tu gagnes dehors, c'est pour le foyer et elle a droit à sa part. Donc, je pense que peu importe le modèle qu'on choisit, on doit aller jusqu'au bout du modèle et pas juste prendre ce qui nous arrange et dire « oui, non, mais nous, on veut être comme nos grands-pères ». Et ça s'étend à tellement de choses. Je veux dire, on parle aujourd'hui beaucoup du « retour » entre guillemets de la polygamie. C'est pas la polygamie qu'ils veulent, c'est un grand désordre. La polygamie a des règles. Et la plupart des hommes que je vois autour de moi ne seraient pas capables de respecter ces règles-là. Donc moi, je ne suis pas contre le modèle traditionnel. Je ne le ferai pas moi, mais je ne suis pas contre son application de façon générale, parce que pour moi, une femme qui apporte au foyer, c'est aussi une grande richesse. Je refuse juste que ces femmes-là soient exposées à une grande pauvreté, ou en cas de séparation, ou en cas de divorce, parce que finalement, les hommes avec qui elles sont n'auront pas joué le jeu jusqu'au bout.
Super. Merci Vanessa.
Merci Lauriane de m'avoir reçue. Je suis trop contente qu'on ait réussi à parler de ces sujets pour lesquels qu'on avait commencé à évoquer.
Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou une note sur Spotify. Si vous souhaitez aller plus loin sur les thèmes de la parentalité et de l'entrepreneuriat, inscrivez-vous à la newsletter sur oma.fr/newsletter et recevez un mail un lundi sur deux pour découvrir les coulisses du podcast et des astuces actionnables. Vous pourrez retrouver le lien dans les notes de l'épisode. Pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de votre boîte Gmail au cas où. Enfin, rejoignez-nous sur Instagram @orema-communauté pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.